Mais que c'est ça?
Hé, de qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour et bienvenue à l'émission Dossier bizarre. Salut Jason.
Hey, bonjour Tristan.
On est en train de faire un spécial, deux épisodes en rafale pour l'Halloween.
Je te dis qu'on vous gâte.
Exactement, ça nous manquait.
Oui, je pense que ça paraît.
Oui, c'est drôle parce que je suis en pyjama en ce moment, dans le sous-sol, chez mes parents, avec la ligne téléphonique branchée au mur, tu sais, puis je suis vraiment en train de triper. Là.
Ben oui, hein, parce que là, on a fait, on s'est dit, hey, un petit retour pour l'Halloween, ça serait donc bien le fun. Et t'avais un sujet, j'avais un sujet, on se dit, ben, on va en faire deux, tout simplement, puis on va publier les deux épisodes en même temps. Fait que nos fans là, qui sont en manque de dossiers bizarres vont avoir deux sujets différents pour souligner l'Halloween.
Ben oui, puis en plus que l'Halloween cette année, il y a une pandémie, hein, fait que on peut plus faire grand-chose.
Faut trouver une manière de se divertir.
C'est ça, on se met une petite chandelle, on prend ça et on ferme, on met les lumières tamisées, hein, puis on écoute des dossiers bizarres dans le noir.
Ah, ben voilà. Alors, on a parlé des zombies, on a parlé d'une créature. Moi, Tristan, je vais te présenter un lieu.
Ah, OK.
C'est drôle, hein? D'habitude, c'est moi qui parle des créatures, c'est toi qui parle des lieux, puis là, on a comme inversé les rôles.
Ben oui, absolument. Un lieu épeurant, mythique.
Un lieu bizarre, un lieu où il y a eu plein d'affaires étranges qui se sont passées.
Ah, OK. C'est quoi?
Écoute, il y a souvent il y a des comment je dirais ça, on rattache certaines croyances à certains lieux et souvent on va dire comme par exemple les musées sont réputés pour avoir un fantôme ou les théâtres sont réputés pour avoir un fantôme. Les stations de radio à une certaine époque on disait que toutes les stations de radio étaient hantées, tout le monde avait son espèce de légende du fantôme de sa station. Aux États-Unis, les parcs nationaux sont réputés pour avoir des événements étranges. Pratiquement tous les parcs nationaux ont des légendes rattachées à eux. C'est assez spécial.
OK, je l'ignorais.
C'est tellement spécial, Tristan, que je puis par hasard, après avoir tombé sur l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je suis tombé deux jours après sur une série qui est disponible sur Prime Video, là, qui fait justement le tour des parcs nationaux avec les différentes légendes qui sont rattachées. C'est vraiment intéressant. Si jamais là, vous voulez aller plus loin, comme par exemple, le parc du Grand Canyon aurait une caverne secrète qui permet de voyager dans le temps et entre certaines dimensions.
C'est juste
un exemple, c'est même pas de ça qu'on va parler.
En même temps, c'est tellement des endroits vastes qui un peu méconnus, inexplorés là, dans les détails, là, dans les confins du parc. J'imagine que c'est l'endroit propice pour tomber sur des phénomènes et des choses étranges.
Ben voilà, et c'est un terreau fertile justement pour dire il y a des endroits à peu près inaccessibles dans ces parcs-là. Il y a des endroits qui sont plus ou moins explorés parce que c'est en dehors des sentiers touristiques. Alors, ça reste que c'est très fertile pour dire « Ouais, mais il y a un petit coin secret dans le parc-là puis que là, il n'y a jamais personne qui peut y aller. » Puis comme dans en fait, le parc du Grand Canyon est maintenant surveillé là, pratiquement l'entièreté est pratiquement surveillée. Et il y a des endroits qui sont inaccessibles ou qui sont interdits même pour les employés du parc. Alors là, ça vient encore plus entretenir ces fameuses légendes là, de cavernes. Il y aurait un système de cavernes là, dans le parc national du Grand Canyon là, absolument incroyable qui mène là, à des centaines de kilomètres avec plein de trésors égyptiens, des trésors de l'Antiquité. Et là, il y aurait plein de choses comme ça qui se trouvent dans ces cavernes-là. Mais depuis qu'un certain monsieur les a trouvés au début du 20e siècle, il n'y a jamais personne d'autre qui l'a trouvé la caverne. Mais tu sais, c'est des légendes comme ça qui sont le fun à raconter, genre de légendes autour d'un feu, mettons. Mais celle que j'ai aujourd'hui est comme un petit peu plus bizarre que ça. Encore.
Okay.
Nous, on va s'en aller, on laisse le Grand Canyon et on s'en va dans le sud de la Californie, dans le parc national qui s'appelle Joshua Tree. Le parc national de Joshua Tree, c'est un type d'arbre, c'est une sorte de végétation, c'est aussi un album de U2, mais ça n'a rien à voir. Le Joshua Tree, c'est un type d'arbre, c'est un type de végétation qui ressemble un peu à un croisement entre un cactus et un épiderme, mettons. Pour vous donner une idée comme ça, pas très haut. Pourquoi? Parce que Joshua Tree, le parc là-bas, c'est la rencontre de deux déserts, le désert du Mojave et le désert du Colorado. Les vents là-bas sont très forts, un peu comme ça à la côte nord ici. Alors, les arbres restent très courts, très bas.
Ah, c'est ça. Ben, j'ai des photos devant moi.
Oui, ben, c'est ça. Tu vois, le type d'arbre, c'est un peu particulier, là.
Exactement. Allez voir en écoutant le podcast en ce moment, là, où vous ouvrez Google là, avant ou après ou pendant le podcast. Vous irez voir Joshua Park. Joshua Tree, c'est J-O-S-H-U-A Tree. Ça vaut la peine. Pour vrai, c'est bizarre comme parc. Pour vrai, ouais.
Déjà, le paysage donne une espèce de look mythique, hein, un peu étrange, un peu dérangeant. Là. C'est un look qu'on n'est pas habitué de voir. C'est un décor particulier.
Ben oui, on dirait une autre planète.
Ben voilà. Et ça va tourner. On va avoir un petit peu les extraterrestres dans notre histoire aujourd'hui. Puis toutes sortes d'affaires étranges qui se sont passées dans ce fameux parc. Tout d'abord, le parc est très vaste. Hein? Tu as dit tout à l'heure, c'est des parcs nationaux, c'est toujours très grand. C'est des immenses territoires qu'on protège. Ça devient des aires protégées. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un parc national. Dans le cas du parc de Joshua Tree, c'est en 1936, si je ne me trompe pas, que c'est devenu un parc national. Et il fait 3207 km².
Oh, okay.
C'est immense. Là. C'est un énorme territoire. Le parc, comme je le disais, c'est la rencontre de deux déserts. C'est une végétation qui est particulière, c'est une faune qui est particulière et c'est aussi, d'un point de vue géologique, très particulier là-bas. À un tel point qu'on dit, bon, il y a énormément de granit, mais il y a aussi toutes sortes de types de pierres qui sont reconnues par les gens un peu là, qui font dans le mysticisme qui serait là, l'énergie de la terre, qui seraient des pierres qui retiennent la mémoire de l'homme, qui sont capables d'enregistrer des souvenirs. C'est ce genre de choses-là, déjà en partant, là, qu'on a comme terreau pour notre histoire d'aujourd'hui.
OK, donc même, même le sol est différent, là, et la roche.
Voilà, et au titre de roche, jusqu'à l'an 2000, dans le parc national de Joshua Tree, on avait la plus grosse roche du monde.
Ah ouais?
On parle là d'une pierre. Parce que bon, les gens vont dire, ben oui, mais une montagne, c'est de la pierre. Mais là, on parle d'une roche.
Ah ouais, une ouais, seule comme un roche. Caillou, là. Un gros
c'est
caillou.
C'est ça, exactement. Un caillou qui couvrait quelque chose comme 514 mètres carrés et qui fait 7 étages de haut.
Ben voyons donc.
Il est immense, le caillou.
Ben, même Obélix ne serait pas capable de soulever.
Non, je pense qu'il ne serait pas capable. Caillou. Et c'est le point de départ de notre sujet aujourd'hui. On l'appelle Giant Rock. Giant Rock qui, jusqu'en l'an 2000, a été considéré comme le plus gros caillou unique là, en une pièce. Mais en 2000, il y a une partie qui s'est détachée. Le caillou a fendu et il a perdu un morceau. Et là, à partir de là, on a commencé à dire... c'est probablement plus le plus gros. Fait qu'on a perdu le titre du plus gros caillou là, en existence, mais ça reste que c'est énorme, c'est gigantesque. Le caillou aujourd'hui est couvert de graffitis. La partie cassée, on peut voir l'intérieur du caillou, c'est une espèce de granit très, très blanc, très particulier.
OK.
Mais ce caillou-là, depuis de très nombreux siècles, est considéré comme un lieu mythique, un lieu mystique, un lieu avec des ondes particulières.
Ah ouais?
Ouais, les peuples autochtones qui habitent dans le secteur du désert de Mojave ont toujours été un peu en pèlerinage au Giant Rock.
Ah ouais, OK, c'était vraiment mythique à ce point-là.
Okay. Absolument, et ça date pas d'hier, là. C'est pas des illuminés là, des années 1960. Là. On parle vraiment là, de il y a 500 ans, il y a 1000 ans, les populations indigènes du désert de Mojave et du désert du Colorado faisaient des pèlerinages et on sait là, qu'on allait se rassembler autour de la grosse roche.
Ah ouais, mon Dieu.
C'est assez particulier la roche. Mais quand on voit des images de Giant Rock, là, c'est absolument incroyable là, de voir une personne à côté de cette roche-là. Quand on voit juste une photo, ça n'a pas l'air si pire. Quand on a un point de référence avec une personne qui est à côté
c'est
de la roche.
Je suis allé voir exactement ça en ce moment. Puis tabarouette, on dirait un météore, un astéroïde.
C'est très, très, très impressionnant là, la taille de la fameuse roche. Et ça a, comme je disais, toujours été un lieu mythique. Après la Première Guerre mondiale, il y a un monsieur qui a décidé, lui, qu'il voulait aller s'installer dans ce coin-là. Alors, hey, écoute, on a fait référence aux Simpsons hein, tantôt avec les zombies. Hein, qui est, Homer, il veut manger le poisson, le fougou, dans lequel il y a le poison, justement, pour zombifier. Ben, il y a un autre épisode des Simpsons où Homer fait une espèce de trip hallucinogène avec une tortue de désert, là, ce qu'on appelle en anglais une tortoise. C'est un peu ça qui est arrivé, en fait, avec M. Frank Kritzer, qui est un Allemand. Il s'est inspiré des fameuses tortues. Il explorait le désert du Colorado. Il s'est inspiré des tortues du désert qui, quand le soleil était trop chaud, s'enfonçait dans la terre et restait là le temps que le soleil diminue, que la chaleur diminue et ressortait par la suite. Et lui, il a fait un pèlerinage, M. Kritzer, au Giant Rock. À cette époque-là, ce n'était pas encore un parc national. Alors lui, ce qu'il a fait, il a dit « Je vais m'installer ici. »
OK, OK.
Juste au nord de la grosse roche, il a décidé de creuser une maison souterraine.
Oh, ouais.
Et dans sa maison souterraine, la température était très, très, très contrôlée à cause du fait qu'il était sous la terre. Et M. Kritzer s'est installé là de manière définitive. C'était sa maison.
D'accord.
Alors, il vivait là. Il vivait dans le désert, à côté de la grosse roche. Et lui disait qu'il était installé là parce qu'il y avait des effluves mystiques. Et bon, c'était pour lui là très bénéfique de rester là. Il y avait quelque chose de quasi-religieux pour lui là, d'habiter à côté de la grosse roche, à côté de Giant Rock.
Ah ouais, comme si on parle de quelque chose dans l'air, là, que la roche ou dans le sol, mais dans ce coin-là, là, il y a quelque chose de comment dire là, qu'on peut déceler peut-être pour les personnes, parce que j'imagine que c'est pas le seul. Là, si les personnes, les communautés autochtones à l'époque allaient même là comme point de rassemblement, j'imagine que c'est ça, c'était une énergie, je l'ai besoin à saisir un peu. Là,
ben, en fait, souvent, ce qu'on va dire dans ces situations-là, c'est que la roche se trouvait exactement au point où il y avait, par exemple, là, des courants de la Terre qui se joignaient, là, qui se croisaient. Là. Hein, souvent, on va dire qu'il y a comme des lignes d'énergie dans la Terre et que ces lignes d'énergie-là passent à certains endroits et que là, il y en a dans un sens, il y en a un peu comme des méridiens puis des... et finalement, on se croise à certains endroits et qu'il y a des endroits comme ça où c'est plus fort, où c'est plus intense et la roche se trouverait à un endroit comme ça.
OK, OK.
Alors, dans les années 30, M. Kritzer construit sa maison-là, se creuse dans le sol. On dit que dans sa maison, c'était tellement bien fait, l'aération était bien faite, il y avait une manière de collecter l'eau de pluie. Il y a très peu d'eau qui tombe, hein, c'est un désert, mais l'eau de pluie qui tombait, il réussissait à la récupérer, en récupérer une assez grande quantité pour en vivre. Et dans sa maison, il faisait jamais plus que 80 degrés Fahrenheit et jamais moins de 55 degrés Fahrenheit. Parce qu'on sait, dans le désert, une fois que le soleil se couche, c'est très froid.
Hey, tabarouette, mon Dieu, c'est pas pire, ça. Donc, on réussit... a le goût d'aller vivre là,
moi,
tout.
Ben oui, c'est ça. Moi, j'allais me creuser un trou, moi, dans le désert. Puis, alors, il réussissait à tempérer sa demeure comme ça et il faisait des recherches mystiques. On sait pas trop ce qu'il faisait en réalité. On sait qu'il avait creusé avec de la dynamite, s'était installé là, avait réussi à se faire une petite maison et à être autonome, mais on sait pas vraiment ce qu'il faisait. Et à un moment donné, les autorités américaines, là, on est en 1936, à peu près, montée du nazisme en Allemagne. M. Kritzer est un ressortissant allemand qui est arrivé aux États-Unis tout juste après la Première Guerre mondiale. Fait que là, on fait toute l'équation de ça et le gouvernement s'intéresse soudainement à M. Kritzer qui vit seul dans le désert.
OK, OK.
Fait que là, on envoie deux agents fédéraux aller rencontrer M. Kritzer pour voir qu'est-ce qu'il fait, lui, dans son trou. Et qu'est-ce qui arrive? On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé exactement. Il y a une histoire qui dit que M. Kritzer a lui-même allumé de la dynamite qui restait dans sa maison et s'est donné la mort en détruisant son souterrain. Il y a une autre histoire qui dit que les agents américains ont tenté de le faire sortir de sa maison. Ils ne voulaient pas. Ils ont dit « on va l'emboucaner ». On a envoyé une grenade fumigène et la grenade aurait déclenché une explosion avec la dynamite qui traînait dans la maison. Bref, ça a sauté.
Ah ouais, ça a sauté. Quand ils sont arrivés sur les lieux, il y avait vraiment des signes d'explosion comme ça.
Non, en fait, c'est durant l'intervention des agents fédéraux, il y a eu une explosion.
Ah ouais, OK.
Donc, le M. Kritzer est mort dans l'explosion et dans la destruction de sa maison souterraine. Et on ne saura jamais exactement ce qu'il faisait. Mais on sait que finalement, il n'y avait absolument aucun lien avec les nazis ou avec, il avait complètement là, coupé les ponts avec l'Allemagne. C'était vraiment installé dans le désert. On n'avait rien à lui reprocher. Il faisait rien de mal, le monsieur, finalement. C'est tout ce qu'on sait.
OK, OK, mais c'est quand même très étrange comme histoire.
C'est assez spécial.
Déjà là, tu sais, la grosse roche, j'étais comme, hein? Pardon. Là, de savoir qu'il y a un homme qui est allé vivre sous la roche, puis ça venait avec une explosion.
Ben oui.
Il y a un film à faire avec ça.
Ben écoute, ça commence, ça fait juste commencer, là. Ça fait juste commencer. Okay,
écoute,
parce qu'on on a un explorateur.
L'histoire est trop pertinente.
Ah, écoute, c'est fou, là. Puis je veux dire, ça m'a tellement accroché cette histoire-là parce que c'est tellement flyé. Après que M. Kreutzer explose. En fait, avant l'explosion, M. Kreutzer avait rencontré un explorateur, un certain George Van Tassel. Et George Van Tassel s'était lié d'amitié avec M. Kreutzer. Le connaissait, l'avait côtoyé un petit peu, s'intéressait un peu au fait qu'il s'était installé là parce que la roche avait des propriétés là, magiques ou mystiques. Et bon, c'était lié d'amitié avec. Et M. Tassel, après la mort de M. Kreutzer, après l'explosion, a décidé de louer l'espace où se trouvait la grosse roche où vivait son ami. Alors là, on est au début des années 40. M. Tassel s'installe là. Et M. Tassel dit avoir vécu une expérience mystique dans un rêve où des extraterrestres l'ont visité.
Ah, oh, ouais.
Et là, pendant qu'il est là, sur place, avec la grosse roche, ce serait un moyen de communication avec les extraterrestres. Les extraterrestres l'ont visité en rêve. Tristan!
Ben, c'est ça que je comprends. Ça serait comme un moyen de communiquer avec une forme extraterrestre. Via les messages subliminaux ou télépathiques, là, la télépathie.
Voilà.
Un genre de voyage du subconscient, un endroit où tous les astres sont alignés, un endroit précis sur Terre. C'est intéressant, ça.
Oui, exactement. Donc, c'est ça. C'est comme un point de confluence de plein d'affaires, incluant la visite des extraterrestres, qui, eux, ont décidé de communiquer avec M. Van Tassel qui dormait à côté de la roche avec son beau-fils. Et Tristan, sais-tu ce qui m'a vraiment accroché dans cette histoire-là, qui m'a fait tendre l'oreille quand je l'ai entendu la première fois?
Vas-y donc.
Son beau-fils s'appelait Daniel Boone. Le beau-fils de George Van Tassel s'appelait réellement Daniel Boone et les deux campent à l'extérieur à côté de la roche et M. Van Tassel se réveille en sursaut dit avoir été visité par les extraterrestres qui lui ont, en fait, ils l'ont visité pour lui donner un plan très important, un plan d'un immeuble qu'il doit construire maintenant, c'est son objectif de vie. Et cet immeuble-là va lui permettre de voyager dans le temps, va lui permettre de visiter d'autres dimensions et va lui permettre également d'avoir la jeunesse éternelle.
Oh, ouais. Tout ça va se passer parce qu'il construit son immeuble.
Ben oui, c'est ça. C'est un immeuble bien particulier, sous forme de dôme. Quand on le regarde de l'extérieur, là, ça ressemble un peu à un observatoire. Les observatoires classiques, là, qui sont une espèce de dôme avec le télescope qui sort,
oui.
Ça ressemble énormément à ça.
OK.
Et les extraterrestres ont visité M. Van Tassel pour lui donner ce plan-là. Très important, c'est sa mission de vie maintenant. Il doit construire ce qu'il appellera le Intergratron.
C'est donc bien cool comme nom.
Ah, c'est cool, hein? C'est déjà, là, écoute, moi, je suis vendu.
Ça me fait penser à Megatron dans les Transformers. Mais là, c'est en version réelle. Il l'a-tu bâti?
En fait, oui, il a commencé la construction du fameux Intergratron. Gratron, c'est pas facile à dire. C'était vraiment là quelque chose qui a marqué sa vie, qui a fait qu'il a travaillé là-dessus. Mais, Tristan, c'est pas fini, là. C'est pas fini, là.
Moi, je te dis, ça va finir qu'il va décoller avec une navette spatiale.
Ça va être la preuve ultime que les extraterrestres sont là. En fait, M. Van Tassel n'était pas très, très fortuné. Donc, M. Van Tassel a décidé qu'il devait financer son intergratron. Et pour ce faire, il a commencé par construire une piste d'atterrissage sur le territoire qu'il louait, sur la parcelle de terrain qu'il louait. Cette piste d'atterrissage-là a été reconnue par l'aviation américaine comme étant une piste de secours. Donc, un avion de ligne, un avion commercial qui a une difficulté, qui doit atterrir d'urgence, qui est dans ce secteur-là, pouvait atterrir sur sa piste d'atterrissage. Il y a aussi des aviateurs, des pilotes, parce qu'il était lui-même pilote, qui se servaient de la piste d'atterrissage pour décoller et pour atterrir. On dit qu'il y avait en moyenne un avion par jour qui décollait ou qui atterrissait sur sa piste d'atterrissage. Ça lui a permis d'avoir des revenus.
Ah, c'est intéressant.
Et là, monsieur Van... ça c'est original. Et comme il était pilote lui-même, ça lui permettait aussi d'avoir sa propre piste là, pour décoller et atterrir avec son avion. Monsieur Van Tassel a commencé à parler de son expérience, de sa visite des extraterrestres, a commencé à en parler autour de lui, du plan qu'il avait pour l'intergratron qu'il devait construire. C'était sa mission de vie. Alors, il a commencé à en parler et il a senti qu'il y avait un intérêt. Il a senti que les gens s'intéressaient à ça. Et sais-tu qui est M. George Van Tassel dans le mouvement ufologue américain?
Non.
Il est le premier à avoir fait un congrès pour les ufologues.
Les ufologues, les gens qui, c'est quoi déjà?
Les gens qui croient aux extraterrestres, les gens qui croient... Ils ont plein de congrès, hein, à tout bout de champ, on voit ça, puis souvent on le voit dans les films ou dans les séries, des gens qui vont s'asseoir dans une salle, puis là, il y a un panel avec des gens qui parlent de leur expérience d'avoir été enlevés, d'avoir vu des soucoupes volantes, d'avoir été en contact avec des extraterrestres, et c'est rendu très populaire. Il y en a plusieurs par année, mais il a été le premier à faire un regroupement de gens qui venaient parler de leur expérience et de leur de l'expérience avec les extraterrestres, d'avoir vu des vaisseaux spatiaux, d'avoir parlé avec les extraterrestres, d'avoir eu des rêves prémonitoires. Il a été le premier à faire ce genre de regroupement-là, et l'objectif ultime était de financer son intergratron.
OK, oui, je comprends, là.
Donc, ça a été son moyen, donc les conventions qu'il a fait, entre 1953 et 1978. Il est décédé en 1978, là, M. Van Tassel. Donc, pendant toutes ces années, il a fait des rencontres annuelles. Donc, pendant 25 ans, il a tenu des conventions où il invitait les gens à venir parler extraterrestres avec lui.
Dans son intergraton?
On n'est pas rendu là encore parce que la construction, elle se finance tranquillement, pas vite, mais il a commencé à le construire. Il a commencé à construire son intergraton et ça a été de cette manière-là qu'il a pu justement financer la construction, mais sur plusieurs années.
OK, quand même, mon Dieu, ça a commencé avec une piste d'atterrissage. Quand même loufoque, là. J'imagine le bonhomme, là, tu sais, un pilote qui arrête là avec son avion, puis « Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? »« Ben moi, j'ai construit ma piste pour bâtir mon intergratron. » J'ai la misère à le dire.
Oui, ben c'est assez particulier, hein. Puis vois-tu, il s'est basé sur les recherches de Nikola Tesla, qui n'est pas le dernier venu là, comme ingénieur et inventeur, George Lakowski, qui était aussi là, un grand génie de l'ingénierie et de tout ce qui est invention et nouvelles manières de faire. Il s'est inspiré de beaucoup de choses. Il y a eu aussi des personnes connues qui l'ont financé, des gens là, qui étaient de la haute ou qui étaient des investisseurs très, très riches et très connus qui ont investi dans son affaire. Donc, c'était pas... il était en marge de la société, mais en même temps, il piquait l'intérêt de beaucoup de gens.
Ben oui, c'est ça, exactement. Puis tout ça part avec un... C'est fou comment l'histoire est grande. Là, jamais je me serais douté de tout ça quand tu as commencé à me parler de l'Allemand qui est allé vivre là, puis lui qui le connaissait, qui est allé s'installer là, puis que ça a commencé avec un rêve, un contact dans un rêve avec les extraterrestres. Puis bon sang, bonsoir, pour vrai, c'est épique. Puis là, avec son congrès, puis ses fans, si on veut, sa piste d'atterrissage, j'imagine qu'il commençait à avoir une certaine crédibilité. Là.
Oui, absolument. Ben, c'est ça, il est devenu une sommité dans le monde de l'ufologie ou de la croyance extraterrestre. Et il a pu commencer à financer la construction de son immeuble là, il a commencé là, dès le départ à mettre les fondations puis tout ça. Particulier, il ne pouvait pas utiliser aucune forme de métal dans la construction. Alors, l'immeuble existe, là, hein, est encore là, c'est encore possible de le visiter. Et il n'y a même pas un clou en métal dans cet immeuble-là. Il n'y a rien en métal, zéro.
Mon Dieu, OK, ouais, l'architecture spéciale, là, puis le moyen de le bâtir, pas de métal. Donc tout est en bois, j'imagine.
Oui, exactement, tout est en bois. L'immeuble fait 38 pieds de haut, 12 mètres environ. C'est une coupole avec un diamètre de 17 mètres. Alors, ça ressemble vraiment à un observatoire et c'est un dôme, tout simplement. Si vous faites une recherche là, avec intégratron, Vous allez le trouver et vous allez être capable de voir des images. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que au moment où M. Van Tassel est décédé en 1978, il y avait comme un mouvement qui avait été créé. Hein? Il y a un entraînement qui s'est fait. Là. Depuis 1953, il faisait des conférences, des conventions, attirait les gens, construisait son immeuble avec la promesse que tout ça allait devenir un immeuble qui permettait le voyage dans le temps, la jeunesse éternelle. Si on allait dans l'intégratron, on devenait jeune ou on arrêtait de vieillir, et tout plein de choses comme ça qui tournaient autour de son immeuble. On va faire une petite pause, Tristan, puis on va y aller après ça avec un peu les impacts de tout ça et où on en est aujourd'hui là, par rapport à ce qu'aurait vécu M. Van Tassel avec les, je dirais, les découvertes, mais aussi les croyances plus modernes qu'on a maintenant aujourd'hui.
Ah, ben oui, absolument. Puis est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une communauté de gens, des intergratroniens qui voyagent dans le temps? Telle est la question.
Ah, ah! Ben peut-être qu'ils gardent ça secret.
Exact, on va le savoir après la pause.
Excellent!
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Pour tous vos besoins d'animation pour des réceptions de mariage, de graduation, de baptême de petits bébés, de party de bureau, de promotion professionnelle... De divorce, de funérailles, de fêtes d'extraction de dents de sagesse ou pour fêter une vasectomie. Confiez tous vos besoins à DJ Didier. Avec DJ Didier, vous aurez non seulement de la bonne musique, mais en plus, DJ Didier peut faire des bruits de laser. Des bruits de moteur d'avion. Et même des bruits d'explosion. Boum, boum, boum. Avec DJ Didier, vos fêtes seront exceptionnelles. Exceptionnelles.
Et nous sommes de retour à l'émission Dossier bizarre, et ce dossier-là est très bizarre, Jason.
C'est spécial.
Je pense que c'est dans le top 5 facile de nos dossiers les plus étranges.
Et pourtant, à la base, c'est tellement anodin.
Oui,
et c'est comme
exact.
Rien. C'est une grosse roche, puis il y en a plein des sites comme ça, à Stonehenge, à l'île de Pâques. Il y a plein d'affaires comme ça où on dit qu'il y a un certain mysticisme associé à un objet ou à un lieu, puis il n'y a rien vraiment d'exceptionnel là-dedans. Mais là, ça dégénère un peu avec le temps, et ça devient spécial. Fait que M. Van Tassel, qui est celui qui aurait été visité, on dit que les extraterrestres venaient de Vénus, en passant. Là,
Vénusiens.
Eh oui, qui sont venus le voir en rêve pour lui donner une mission de vie, de construire un immeuble, l'intégratron qui allait devenir un immeuble permettant de voyager dans le temps, entre les dimensions, et de rester jeune. Tout ça mis ensemble.
Ah!
Moi, je paierais pour aller là, je paierais. Moi, si ça existe pour vrai, ben, j'irais, moi.
Ben oui, moi aussi, là, je veux dire, en plus que il est beau, il est joli.
Oui, ben oui.
J'aime le nom. L'intergratron. Trois R. Je l'ai pratiqué pendant la pause.
Ben, c'est dur à dire, hein? C'est pas facile à dire.
C'est épique, là. Puis, tu sais, la question se pose quand même, parce que lui, il est décédé en 78.
En 78, et voilà. Et pour financer, entre 1953 et 1978, on dit que la construction, là, vraiment, là, où on a commencé à monter la structure, c'est au début des années 60. En 1953 et 1960, il a construit une piste d'atterrissage tout près de où ça allait être construit. Ils ont réussi à se financer avec ça. Il a attiré les gens, faisait payer les gens pour venir discuter d'extraterrestres. Ça a été les premières conventions organisées de gens qui croient aux extraterrestres. Là, maintenant, il y en a toutes les semaines, quelque part aux États-Unis. Mais à cette époque-là, il était le premier à le faire. Il a quand même été pionnier dans le domaine.
Ben oui, absolument. On peut penser à l'épisode qu'on a fait sur le couple, là, qui est le premier couple qui voit un objet volant non identifié.
Barney et Betty.
Oui, c'est ça.
Oui, ben c'est ça. C'était les premiers.
Les premiers dans cette gang-là, dans un sens.
C'est ça. Et eux, c'était les premiers qui en parlaient publiquement. Lui, il était le premier à inviter les gens à venir partager leur expérience, faisait payer les gens et a réussi à financer son intégratron avec cet argent-là qu'il a commencé à construire dans les années 60. L'immeuble a été complété dans les... On dit au 1980 à peu près. Lui, il est né, décédé en 1978. En 1980, à peu près, là, on a terminé la construction selon la vision de M. Van Tassel, mais il n'y arrive rien à cet immeuble-là. Finalement, il n'y arrive pas grand-chose quand on rentre dedans. c'est quand même un exploit d'architecture et d'ingénierie d'avoir réussi à construire ça sans utiliser aucune forme de métal, même pas de clous, mais ça reste un lieu touristique à aller voir qui est intéressant, mais pas plus. Là. Je veux dire, je ne me mettrai pas à voyager dans le temps parce que j'ai passé la porte de l'intégratron. Là.
OK. Donc, on a la preuve. Ça fonctionne pas.
Non, et voilà. Et ça a été vendu, ça a été acquis par trois sœurs. J'ai pas beaucoup de détails sur les trois sœurs. Est-ce que c'est des croyantes? Est-ce qu'ils ont fait ça pour faire un peu de sous en faisant payer les gens pour venir visiter? Je le sais pas. Mais eux, ce qu'elles disent, c'est que l'intégratron, même s'il fait pas nécessairement ce qu'il aurait dû faire selon les plans originaux, il y a quand même une acoustique qui est complètement impossible sans avoir eu de l'aide extraterrestre.
Ah, OK, pour chanter.
Eh oui, pour chanter, pour parler, pour... L'acoustique a quelque chose de au-delà des capacités humaines.
Ah, ben c'est intéressant. Le producteur sonore en moi est intéressé, là.
Eh oui!
On va en rajouter notre podcast là-bas.
Et voilà. Alors, ce qu'elles offrent, elles, dans l'intégratron, elles disent que c'est un acoustique parfait qui ne peut pas être entendu ailleurs dans le monde. Elles offrent des bains d'acoustique. Alors, les gens peuvent aller méditer dans le intergraton grâce à l'acoustique particulier qu'il a.
OK. Est-ce qu'ils font la méditation? C'est-tu comme des chants grégoriens? Là,
non, pour... ben en fait, oui et non. C'est un peu de ça avec des bols faits en quartz, parce qu'on le sait, hein, le quartz a une valeur mystique très, très forte. Alors, on dit qu'on utilise des bols en quartz pour faire certaines sonorités qui sonnent comme ça juste dans l'intergraton.
Ah ouais. OK. C'est quand même intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Des sons qu'on peut entendre uniquement d'une certaine manière
dans cet immeuble-là.
Ce bâtiment.
Et voilà. Alors, c'est les trois sœurs, c'est Joanne, Nancy et Patty Carl qui ont acheté l'immeuble là, et qui aujourd'hui en sont les propriétaires et qui est toujours debout là, et c'est toujours possible d'aller le visiter. Il avait été abandonné un certain temps, tombé un peu là, en ruine. On l'a reconstruit selon les plans originaux et là maintenant, il est accessible.
OK.
On arrive avec... bon, c'est une belle histoire, tout ça, mais ça a eu des impacts, Tristan, dans le monde moderne des croyances extraterrestres. Et là, on en a parlé, on a fait un épisode sur des anciens astronautes qui seraient venus là, à différentes époques de l'humanité ou de la société pour venir nous aider, comme les pyramides d'Égypte. Ben, c'est des extraterrestres qui sont venus aider parce que ça se peut pas que l'homme ait été capable de faire ça. Stonehenge, la même affaire. Il y a plein de sites comme ça qu'on dit que les anciens extraterrestres ou les anciens astronautes seraient venus intervenir. Et là, on a récupéré l'histoire de George Van Tassel à la saveur ancien astronaute. Donc, c'est dans les croyances plus modernes en lien avec ça. Là, c'est un peu la direction qu'on a tenté de donner à cette histoire-là. Alors, on dit que les anciens astronautes seraient venus au site de la roche géante. On revient à notre début, là, la grosse roche. Il y a 450 000 ans.
OK.
Et la raison de leur visite, Tristan, était de venir prospecter de l'or sur la Terre.
D'accord.
On voulait de l'or. Et c'est un thème récurrent, ça. Hein? Les gens qui croient aux extraterrestres et qui sont venus à différentes époques, souvent, on relie ça avec l'or. On veut venir chercher de l'or sur la Terre. Et la croyance, c'est que leur planète avait été détruite par la pollution ou bon, par un cataclysme, dépendamment des histoires. Et on voulait faire de la poussière d'or pour la mettre dans l'atmosphère de leur planète et refléter les rayons du soleil pour éviter que la planète surchauffe et qu'elle se détruise.
Oh, quand même poussé comme explication. Je ne m'attendais pas à ça.
Hein, c'est quand même pas pire, hein? C'est presque scientifique. Presque.
Ben oui, c'est ça, exactement. Puis parce qu'on a des preuves qu'il y a de l'or enfoui sous le banc de Joshua Tree.
Ben, je pense pas qu'on ait de grosses mines d'or. C'est en Californie quand même, donc j'imagine que durant le Gold Rush, là, durant la ruée vers l'or, il y a probablement eu quelques filons qui ont été trouvés, mais en très grande quantité, j'ai pas rien vu passer à ce propos-là. Mais il y a 450 000 ans, à ce qui paraît, on serait venu, puis peut-être qu'ils l'ont vidé, puis c'est pour ça qu'ils en ont plus.
Ben, c'est ça.
C'est l'explication qu'on
a. Les anciens astronautes se sont emparés de toute cette histoire.
Sont gourmands.
Ils l'ont recréé à leur saveur.
Là. Et voilà. Alors, il y a 450 000 ans, on serait venu visiter ce site-là exactement. Et la raison pour laquelle on venait chercher l'or, c'était pour protéger notre planète. Et ça l'aurait réussi. C'est la raison pour laquelle ils ne seraient pas revenus récemment.
OK.
Ils ont réussi à sauver leur planète. Et voilà, ils sont venus voler notre or, la gang de... Mais là, écoute, là, ça devient complètement éclaté quand on arrive là, puis encore plus, c'est éclaté jusqu'à maintenant, là. Mais là, quand les anciens astronautes sont venus ici, il y avait besoin de main-d'œuvre pour extraire l'or du sol. Et il y avait des habitants sur la Terre, mais c'était pas l'homme. C'était une créature qui ressemble un peu à Bigfoot, si on regarde des photos, qu'on appelait l'homme Yucca. Y-U-C-C-A, ou en anglais, le Yucca Man. Et ces créatures-là étaient extrêmement puissantes et extrêmement intelligentes. Et là, les extraterrestres ont dit, on ne sera pas capable de les transformer en esclaves, eux autres. Non, ils sont trop forts. On peut pas. On doit avoir une race inférieure qu'on va introduire dans l'écosystème et qui va être à notre merci et qui va travailler pour nous. Et qui a-t-on introduit, Tristan?
Nous!
Ben oui, on a introduit l'humain comme esclave pour extraire l'or dans le désert de Mojave et du Colorado pour sauver la planète des anciens astronautes ou des extraterrestres.
Ah ouais!
Et ça aurait été un croisement entre le Yucca Man, l'homme Yucca, et une autre créature, probablement extraterrestre, qui aurait donné de l'humain.
OK.
Donc, la raison pour laquelle on a fait ça, Tristan, c'est parce que le Yucca Man était habitué aux toxines terrestres. Alors, on avait besoin de son système immunitaire, mais on voulait une créature, une race moins intelligente et moins puissante. Alors, on a pris une race inférieure qu'on a mêlée avec le système ou l'ADN du Yucca Man pour créer l'homme qui était capable de vivre sur la Terre et d'extraire l'or pour les extraterrestres, pendant qu'eux autres jouaient au badminton, probablement.
OK, donc ça serait de là qu'on vient.
Eh voilà, on vient de là.
Selon les anciens astronautes, quand même pas pire. Je veux dire, il y a beaucoup de théories, comme tu disais, les pyramides, le Stonehenge,
et oui.
Mais l'origine des humains aussi.
Et voilà, on vient de là. On vient du désert du Mojave et du Colorado, parce qu'il fallait travailler pour les extraterrestres. Je sais pas si c'était des bons patrons, mais ils nous ont introduits là. Et dans l'histoire, ben là, on s'est propagé. Ils seraient revenus nous visiter à différentes époques, à différents endroits, pour nous faire construire certaines choses ou nous faire extraire de l'or ailleurs sur la Terre. Mais la base serait là, il y a 450 000 ans.
OK, puis ça serait ces extraterrestres-là qui auraient communiqué avec l'homme là, qui a bâti le
Et voilà, et là, pendant 450 000 ans, les extraterrestres sont partis. Parce que ça marchait, ils ont envoyé de l'or dans leur atmosphère, leur planète est sauvée, ils ont fait un gros party, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Mais là, catastrophe, Tristan, dans les années 50, on se trouve avec un problème d'infertilité sur la planète des extraterrestres.
OK.
Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit revenir sur la Terre et là, tenter de croiser leur race avec la nôtre pour faire des hybrides.
Ouh, d'accord. D'accord, c'est là qu'il y a eu la communication.
Et voilà, et on boucle la boucle. On a fait cette communication-là et on a donné les plans de l'intergratron à M. Van Tassel pour permettre aux humains qui vont servir de géniteurs ou de producteurs d'hybrides de vivre éternellement et de continuer de produire des hybrides sur une période indéterminée, le temps de repeupler la planète des extraterrestres.
Ben là, j'y crois. c'est donc bien détaillé comme explication.
C'est fou,
ils sont pas allés de main morte, là.
Ah non, écoute, j'ai tiqué sur cette histoire-là quand ça a commencé. C'est intéressant, il y a des mythes sur les parcs américains. On n'a pas vraiment été du côté américain là, sur des trucs comme ça. Mais là, à force de lire sur celui-là, je me disais, ben voyons donc, ça va finir à un moment donné, puis le monsieur va mourir, puis ça va arrêter. Mais non, il y avait d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Et il y a beaucoup de croyances également au niveau des sectes qui se rapprochent des extraterrestres. Raël, par exemple, les Raéliens, se rapprochent aussi de certaines croyances ou vont piger un petit peu dans cette expérience-là de George Van Tassel pour amener dans leur discours à eux. C'est pas identique, mais on est allé s'inspirer de certains éléments, de certains traits. Du côté des Raëls, on faisait des bâtiments également là, qui avaient des propriétés, des trucs en forme de soucoupe volante, en forme de vaisseaux spatiaux, en forme de triangle. Bref, on est allé un peu s'inspirer de ce que George Tassel a vécu ou a dit avoir vécu et on l'a intégré dans la secte des Raéliens, par exemple. Et il y en a d'autres dans le monde aussi là, qui ont été s'inspirer de ça, qui ont été chercher certaines de ces croyances-là pour les intégrer dans leur doctrine.
OK, ciboulette, incroyable!
Ben, c'est quand même un point de départ, hein, étant donné que c'est lui qui a commencé à faire des conventions. Ça serait probablement arrivé d'une manière ou d'une autre, là, ces fameuses conventions-là de gens qui croient aux extraterrestres, mais c'est quand même lui qui a été le premier à le faire. Et ça a eu un impact mondial, tout ça, là. Ça l'a propagé rapidement. Ça l'a validé, ces gens-là. Il y en a là-dedans qui étaient des profiteurs, mais il y en a qui sont convaincus d'avoir été amenés à bord d'un vaisseau extraterrestre. Et ça les validait. Ça leur donnait un endroit pour aller s'exprimer, pour aller parler ouvertement de ce qu'ils croyaient avoir vécu. Et ça l'a fait des petits, ça l'a amené, ça a fait un effet domino ailleurs sur la planète. Et là, aujourd'hui, en 2020, il y en a dans tous les pays là, de ces conventions-là. Il y en a probablement à Montréal, il y en a probablement à Toronto, à New York, il y en a un peu partout. Et ces gens-là se rassemblent et peuvent parler, juste pour dire en toute impunité, mais plutôt de manière ouverte, là, sans jugement, oui. C'est le mot que je cherchais, sans jugement de ce qu'ils croient, de ce qu'ils pensent avoir vécu, de leur expérience. Alors, ils le vivent comme ça dans ces conventions-là. Mais c'est le point de départ, c'est cette grosse roche-là dans le parc de Joshua
Tree.
Ben oui,
c'est ça, exact. Il est à l'origine de tout ça.
Ouais.
Aïe, aïe, c'est fou parce que je refais tous les éléments chronologiques dans ma tête. Tu sais, depuis l'Allemand qui est arrivé après la Première Guerre mondiale, juste avant la Deuxième. Tu sais, je ne referai pas toute l'histoire au complet, là, mais chaque élément amène à une conclusion qui est tellement énorme. C'est le père fondateur des congrès de tripeux d'extraterrestres, c'est qui bâtit un mouvement international considérablement énorme. c'est fou, là, ça part, comme tu dis, d'une roche.
Eh oui, ça part de la grosse roche qui était le Giant Rock, qui est un peu comme à la croisée là, du désert du Colorado et le désert du Mojave dans le parc de Joshua Tree, qui, à la base, c'est un décor tout à fait exceptionnel. C'est vraiment flyé là, comme place, mais à la base, c'est vraiment cette roche-là qui est le point de départ de tellement de choses. C'est incroyable.
Ben oui, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. C'est un territoire que je connaissais pas. Et c'est une histoire que je connaissais pas. Puis je vous invite à aller voir des images, pour vrai, du Joshua Tree. Même d'aller le visiter. Moi, ça me donne le goût d'aller le visiter, Jason.
Ça me donne le goût d'aller voir l'Intergratron. Vraiment,
oui,
là,
aussi,
j'ai envie de...
L'Intergratron, ouais. Si je passe dans le coin de... C'est à côté de la ville de Los Angeles.
Oui, ben c'est ça. C'est dans le sud de la Californie, là.
Donc, quand même un beau petit détour, là. Mais ben, ça vaut la peine, là, je pense, là, avec toute cette histoire-là. Puis pourquoi... Qui sait, hein, peut-être que... On nous le dit pas, c'est un secret de la part des gens qui vont dans l'Intergratron, là, mais peut-être que ça augmente l'espérance de vie.
Ben oui, ben là, évidemment, tous les conspirationnistes et les grands moines des anciens astronautes, évidemment, parlent de complot, parlent de le gouvernement cache des choses, que ça a commencé dès le départ et qu'on a assassiné l'Allemand là, qui s'était fait une maison souterraine et que tout part de là, parce que lui, il avait découvert des choses. Bref, c'est encore une fois là, un terreau très fertile pour les gens là, qui aiment croire qu'il y a des complots partout. Ça fait partie du folklore américain dans ce secteur-là de Monsieur Van Tassel et tout ce qui a gravité autour de lui.
Ah, ben c'est intéressant, mais je rappelle, s'il y a des gens qui ont des idées de conspiration qui nous écoutent, parce que moi, j'ai nulle intention de juger personne ni aucune idéologie, Jason, mais c'est intéressant de pouvoir de voir les deux côtés de la médaille, donc
ben
l'histoire
oui.
qu'on retrouve plus crédible, là, j'appelle ça crédible, puis l'histoire des conspirationnistes. Je m'embarquerai pas dans une... Moi, je ne suis pas conspirationniste, mais j'ai des amis qui le sont. Et puis, parfois, ils tentent de me convaincre. Et là, je leur dis, non, ça m'intéresse pas trop.
Mais ça fait des débats,
mais,
malheureusement.
C'est une question de discussion. J'aime ouais. débattre avec tout le monde. Puis,
faut juste pas s'attendre à avoir une conclusion au débat. Parce que, bon, moi, je serai jamais convaincu par un conspirationniste. Et lui, il sera jamais convaincu par moi non plus. Alors, faut pas s'attendre là, à réussir à convaincre qui que ce soit, peu importe notre position. Mais oui, ça peut amener des débats très intéressants. Des fois, une manière de voir. Et il amène des points intéressants. Et on va amener des points intéressants aussi, qui fait que c'est un pensez-y bien, ça fait du sens, mais ça veut pas dire que la personne on va la convaincre, mais ça peut faire des discussions très 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 animées mais très intéressantes aussi, tant que ça reste dans le respect.
Ben oui, absolument, exactement, c'est pour ça que c'est le fun de partager des idées comme ça, puis des sujets épiques comme ceux-ci. On a appris un mot, Jason, moi j'ai appris un mot.
Oui?
C'est moins niaiseux à soir. Intergratron. J'adore le dire.
Eh oui, c'est un mot qui désigne une seule chose. C'est rare en ça, un mot qui désigne seulement une chose sur la planète. Bien, ça, ça en est un.
Je vais appeler mon enfant comme ça.
Hey boy. OK.
c'est des blagues. On rigole, on lâche.
Ben oui. Hey, écoute, Tristan, c'était très agréable de se retrouver comme ça et de pouvoir faire là, deux épisodes qu'on pensait très courts et qui finalement sont relativement bien étoffés.
Ben oui, absolument. C'était super le fun. Puis c'est définitivement le lancement de notre troisième saison.
Ben oui.
Et puis sachez-le, là, on va être de retour avec quelques épisodes par-ci par-là d'ici Noël. Si vous avez des idées de sujets, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de les faire, de les couvrir et de répondre à vos questions, à vos commentaires sur notre page Facebook. Et n'hésitez pas à partager aussi nos publications,
ben
ça
oui.
nous donne de la visibilité et
absolument.
Ça nous fait bien plaisir.
Absolument, et vous êtes très, 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 très nombreux, plusieurs milliers de personnes qui suivent l'émission Dossier Bizarre. Alors, on est très content que vous soyez là. Évidemment, il y en a probablement là-dedans là, qui n'attendent plus d'épisodes. Ben, j'espère que vous allez faire un retour, que vous allez revenir et que vous allez bien apprécier nos deux sujets pour l'Halloween.
Oui, vraiment. C'était super sympathique, Jason. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce sujet de Joshua Tree.
Ça faisait bizarre, ça faisait différent un peu, mais c'était très intéressant à rechercher comme sujet.
Oui, vraiment, vraiment. Non, c'est le fun. Hein? Tout dossier bizarre peut être traité à notre podcast.
Et voilà. Hey, je te souhaite une excellente journée, Tristan.
Merci beaucoup. Un gros salut à tout le monde.
Eh oui, bye-bye tout le monde.
Salut.
L'émission Dossier bizarre était une présentation de...
Tout explorateur de l'étrange sait qu'une journée d'aventure paranormale doit débuter par un bon repas. C'est la raison pour laquelle, avant de partir en expédition, je fais toujours un arrêt. Oh! Yeti dodu! Oui, oh Yeti dodu! Ne manquez pas notre spécial du lefto avec un bon déjeuner avec 14 œufs, 8 livres de bacon et 16 toasts. Ce déjeuner est tellement riche que les Bigfoot vont courir après vous dans la forêt.
Le Yeti dodu!
Le restaurant des amateurs de paranormal.